France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, en cette journée spéciale, 10 ans après le drame de Charlie Hebdo, retour sur l'avant Charlie, avec l'affaire des caricatures de Mahomet, ou comment 12 dessins ont bouleversé le monde. C'est l'histoire d'images et de ce que l'on en voit. C'est l'histoire de dessins, de manipulations et d'un embrasement. C'est l'histoire d'un journal et d'une rédaction, celle de Charlie Hebdo, décimée le 7 janvier 2015. C'est l'histoire, enfin, de procès au pluriel, celui des caricatures et ceux des attentats de janvier 2015 qui ont fait 17 morts en 3 jours. Nos invités aujourd'hui, Serge Faubert, directeur aujourd'hui de la rédaction de Pure Politique qui décrypte l'actualité politique. Il était en 2005 et 2006 le directeur de la rédaction de France Soir, premier journal français à publier les caricatures. Et Daniel Lecomte, journaliste lui aussi, producteur et réalisateur, auteur en 2007 d'un documentaire consacré au procès des caricatures, intitulé « C'est dur d'être aimé par des cons », procès dont il a été appelé à la barre comme témoin. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Jean Bulot, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Le 7 janvier 2015, comme chaque mercredi, l'équipe de Charlie Hebdo se retrouve pour la réunion de rédaction. Ils sont 13 autour de la table, des dessinateurs, des chroniqueurs et un garde du corps, Franck Brinsolaro, en charge de la protection de Charles. La menace est réelle, mais on pense, à tort, être protégé de la barbarie. Dans cette petite salle sans fenêtre, on débat, on rit. Voilà plus de 20 ans que ça dure. À la une du dernier numéro, Michel Houellebecq. Le visage blême, chapeau pointu sur la tête. Il déclare « En 2015, je perds mes dents. En 2022, je fais ramadan. » L'écrivain est en pleine promotion de son dernier ouvrage intitulé « Soumission ». Projection futuriste d'une France dirigée par un parti musulman arrivé au pouvoir par la voie des urnes. Au même moment, rue Nicolas Appert, les frères Kouachi franchissent la porte du numéro 10. Là, une équipe d'employés de maintenance travaille. Les malfaiteurs l'interrogent et demandent « Où est Charlie ?» Puis tirent sur l'un d'entre eux. Il s'appelait Frédéric Boisseau, il avait 2 fils. Il sera la première victime de cette journée. Quelques minutes plus tard, les 2 terroristes français, oui, français, rappelons-le, sont dans l'escalier qui mène à Charlie Hebdo. Ils croisent Corinne Ray. L'une des dessinatrices du journal descend du grillé une cigarette. Kalachnikov pointé sur elle, il remonte les marches jusqu'au 2e étage. Corinne tape le code du digicode, 13 06 10. Il est 11h30, les tueurs entrent dans la rédaction de Charlie.
Baissez-vous.
Lorsqu'on ne s'y attend pas, combien de temps faut-il pour sentir que la mort arrive ? Ce n'est pas seulement l'imagination qui est dépassée par l'événement, ce sont les sensations elles-mêmes. J'ai entendu d'autres petits bruits secs, pas du tout de bruyantes détonations, de cinéma, non. Des pétards sourds et sans écho.
Baissez-vous.
Et j'ai cru un instant, mais qu'ai-je cru exactement ?
Il est vous encore ?
Déjà, je ne voyais plus rien ni personne, excepté à l'autre bout de la petite pièce, le silencieux Franck, garde du corps de Charb. Je l'ai vu dégainer son arme et regarder vers cette porte, ouvrant sur je ne sais quoi. Et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une farce, ni de gamin, ni même d'une agression, mais de tout à fait autre chose. Il y a eu encore des balles, des secondes, des Allah Akbar. Tout était à la fois brumeux, précis et détaché. Mon corps était allongé dans les 3 passages entre la table de conférence et le mur du fond. J'ai vu apparaître, sous la table, de l'autre côté, près du corps de Bernard, 2 jambes noires, et un bout de fusil qui flottait plus qu'il n'avançait. J'ai fermé les yeux, puis je les ai de nouveau ouverts, comme un enfant qui croit que nul ne le verra s'il fait le mort. Car je faisais le mort.
À l'arrivée des secours, Philippe Lançon est encore vivant. Les pompiers soulèvent son corps, ils survolent les morts et les balles, 34 balles de Kalachnikov, 10 morts. La suite, vous la connaissez. Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercacheur, la traque. Tout a été dit, écrit. Mais depuis quand le journal Charlie Hebdo vivait-il sous protection ? Quand ? Charb et ses amuseurs publics se sont-ils retrouvés sur la liste macabre de terroristes? Comme un enchaînement dramatique, c'est en 2005, au Danemark, que débute cette histoire. Un écrivain de livres de jeunesse, du nom de Kare Bulten, cherche un dessinateur pour illustrer son prochain ouvrage sur la vie de Mahomet, destiné aux adolescents. Bulten est un écrivain reconnu dans son pays. Pourtant, personne ne souhaite illustrer son livre et dessiner le prophète. Un seul finit par accepter en échange d'un anonymat total. Lors d'un dîner, l'écrivain raconte sa mésaventure à un journaliste, Fleming Rose. L'anecdote devient alors information, puis événement. À la suite de l'article, le journal danois Jyllands Posten décide de lancer un concours auprès des dessinateurs sur le thème de Mahomet. Le 30 septembre 2005, 12 dessins sont sélectionnés, publiés sous le titre « Les visages de Mahomet ». 12 regards sur l'islam et son prophète. Comme le dira le dessinateur Rhys quelques semaines plus tard, le crime est dans l'œil de celui qui regarde le dessin. Alors, que voyons-nous? Des dessins de presse, des illustrations, des caricatures de nature différente. Certains sont humoristiques, d'autres enfantins, poétiques et inquiets, comme ce dessinateur tremblant devant sa feuille lorsqu'il dessine le visage du prophète. Ils sont artistiques et scandaleux aussi, comme celui de Kurt Westergaard, où l'on voit le visage d'un homme barbu coiffé d'un turban avec une mèche. Le même jour, le 30 septembre 2005, à Paris, rue Turbigo, au siège de Charlie Hebdo, on prépare la sortie du numéro de mercredi. La vie de ce journal satirique est aussi originale que lui. Né sous la plume du professeur Choron et de François Cavada sous De Gaulle, il ferme ses portes à l'arrivée de la gauche au pouvoir en octobre 81, pour renaître de ses cendres en 92, sous l'impulsion entre autres de Philippe Val qui en prend la direction. Ce vendredi 30 septembre 2005, la rédaction fête sans doute la sortie prochaine de l'ouvrage « Les années Jean-Paul II », un recueil caustique de sa vie. Ce pape est un habitué des pages de l'hebdomadaire que Cabu et Charb aiment tant pasticher. Depuis sa création, le journal revendique son anticléricalisme et son droit à caricaturer toutes les religions. Voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là en France, comme au Danemark. Mais ses dessins vont bouleverser le monde musulman, occidental, français et la vie de Charlie Hebdo. Deux semaines après la publication des 12 caricatures, le 14 octobre 2005, une première manifestation a lieu à Copenhague devant les bureaux du journal Jyllands Posten. Ces manifestants protestent contre l'initiative de l'hebdomadaire de représenter le prophète sous des traits qu'ils jugent blasphématoires pour leur dieu et pour leur religion. Deux dessins attirent particulièrement les critiques des manifestants. L'un où l'on voit Mahomet coiffé d'une bombe, l'autre, où des hommes encore fumants, des kamikazes, arrivent au paradis et découvrent qu'il n'y a plus les 70 vierges à récompense du paradis musulman. Sur ces dessins, aucun titre, non, juste le nom des dessinateurs, dont celui de Kurt Westergaard, qui 10 ans plus tard ne regrette rien.
Eh bien, je crois qu'à la base, je rose toujours un sentiment de colère. Je travaillais en tant que dessinateur satirique, selon les traditions danoises. Je n'ai rien fait de mal. Je pense d'ailleurs que c'est le rôle même des dessinateurs et des satiristes que de critiquer ceux qui détiennent du pouvoir.
Chaque regard, chaque individu propose alors son interprétation face à l'image. Certains y voient une critique contre les intégristes qui revendiquent la parole de Mahomet pour perpétrer des attentats. D'autres, y voit l'amalgame entre musulmans et terroristes. En vérité, c'est une question d'angle, une question de point de vue. Le 17 octobre, par exemple, de l'autre côté de la Méditerranée, le journal égyptien Al-Fajr publie 6 des 12 caricatures et il ne reçoit aucune menace, ni même revendication. Au Danemark, en revanche, la mobilisation bat son plein. La manifestation devant les portes du journal n'est qu'une première étape. Des associations de croyants organisent des meetings et lancent des pétitions pour faire pression sur le journal afin qu'il s'excuse. Dans les couloirs des ambassades aussi, la révolte gronde. Le 19 octobre, 11 ambassadeurs de pays de musulmans décident d'envoyer une lettre au premier ministre danois. Mais Anders Fogh Rasmussen, à la tête d'une coalition soutenue par un parti d'extrême droite, refuse de les recevoir et réaffirme la liberté d'expression comme l'un des fondements de la démocratie danoise. comme une vibration, à des milliers de kilomètres de là, ce choix stratégique et politique lié au contexte national engendre une série de conséquences. Une délégation d'imams danois prend en effet la route en direction de la Syrie, de la Libye et de l'Égypte. Ils y rencontrent des hauts responsables de la religion musulmane, comme Mohamed Sayed Tataoui, grand imam de la mosquée Al-Azhar, la plus ancienne du Caire, comme il le raconte lui-même au micro des journalistes de Pièces à Conviction sur France 3.
Les musulmans danois sont venus nous voir. Ils nous ont présenté un dossier avec des dessins qui sont des insultes contre notre prophète, que Dieu le protège. Nous les avons reçus cordialement et nous leur avons dit que nous ferions le nécessaire pour qu'ils puissent repartir et vivre tranquillement dans leur pays d'accueil. Nous leur avons promis de tout mettre en œuvre pour que ces gens qui font des caricatures ignobles sur notre prophète, que Dieu le protège, arrêtent leurs attaques contre lui.
Les dossiers des imams danois ne comportent pas seulement les 12 caricatures, mais d'autres représentations non sourcées. En tournant les pages du fascicule, on tombe par exemple sur une photo d'un homme avec un nez de cochon. Il ne s'agit pas d'une caricature offensante du prophète, mais d'une photo volée prise lors d'un rassemblement d'une fête du cochon, en France. Mais d'image, on peut tout faire dire. Et dès 2005, la diffusion et la fabrication de faux sur la toile sont devenues une pratique quotidienne. Toute image est source de montage, recadrage, déformation. Le bruit numérique et médiatique enfle jusqu'à des appels à tuer. Au mois de décembre, un groupuscule pakistanais a pris la tête des dessinateurs. Dans le même temps, la Ligue arabe décide de réunir l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des pays membres pour réagir collectivement à l'affaire danoise. Le 29 décembre 2005, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Abdel Ilah El-Khatib, déclare :
nous demandons des excuses aux Danois. Nous avons déjà fait pression sur eux, il faut qu'on continue. Il faut que nous fassions des pressions économiques.
L'Arabie saoudite est le premier pays à mettre ses menaces à exécution. Elle rappelle son ambassadeur du Danemark et retire tous les produits danois des rayons des hypermarchés. Le Koweït lui emboîte le pas quelques jours plus tard. La mesure produit son effet. Le 30 janvier 2006, le rédacteur en chef du quotidien danois, Carsten Justet, présente ses excuses en arabe et en première page du site internet de son journal. Le même jour, le premier ministre danois prend la parole à la télé. Il réaffirme l'importance de la liberté d'expression, mais se désolidarise du journal.
Le gouvernement danois n'a pas d'opinion sur les caricatures publiées dans les journaux danois. Les journaux sont libres et indépendants du pouvoir et décident de ce qu'ils publient. Si vous me demandez maintenant mon opinion personnelle, je ne me permettrai jamais de représenter Mahomet.
En France, c'est le mercredi 1er février 2006 que la controverse s'accélère. Ce jour-là, François publie la série des caricatures danoises. Il sera le premier journal en France à le faire. Et que découvrent les lecteurs? Eh bien, un dessin original où l'on voit Bouddha, Yahvé, Mahomet et Dieu sur un nuage. Dieu dit à Mahomet, et râle pas, on a tous été caricaturés ici. Danoise, puis internationale, l'affaire des caricatures devient une histoire française.
You can never.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les caricatures de Mahomet.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
1er février 2006, le numéro de François est dans les kiosques. Son directeur, Jacques Lefranc, fait ses cartons, limogé par le propriétaire franco-égyptien Rami Lakka. L'indépendance des rédactions, la liberté de la presse évoluent selon les humeurs des actionnaires. La presse est fragile. C'était ainsi en 2006, c'est toujours le cas aujourd'hui. En tout cas, grâce à François et son directeur de la rédaction, Serge Faubert, le débat devient national. Fallait-il ou non publier ces caricatures danoises? Le droit au blasphème est-il menacé? Et peut-on rire de tout? Chronique, édito, tous les médias emboîtent le pas. Et chacun attrape les micros pour présenter ses arguments. Dalil Boubacar, président du Conseil français des cultes musulmans et recteur de la Grande Mosquée de Paris, est le plus virulent. Il déclare que les dessins sont odieux et parle d'une provocation vis-à-vis des millions de musulmans de France. Charles, l'un des dessinateurs de Charlie, répond à la polémique au micro de France Inter.
Si ces dessins sont choquants ou portent atteinte à l'image de quelqu'un ou d'une idée, il y a des tribunaux qui sont prévus pour ça. Donc si les instances musulmanes sont choquées par ces dessins ou sont choquées par d'autres dessins, il y a toujours la possibilité d'aller devant un tribunal. Il ne faut pas non plus confondre des dessins, des caricatures, avec des attaques personnelles contre un peuple ou contre une religion ou contre une croyance. Ça a été difficile de se moquer de la religion catholique. On s'est battu pour ça. Des journaux bien plus anciens que Charlie Hebdo ont lutté pour ça. Je pense notamment à l'Assiette au beurre au début du siècle. On a fini par gagner un peu de terrain et suffisamment pour pouvoir s'exprimer librement. Maintenant, si d'autres religions, notamment l'islam, essayent de revenir en arrière, eh ben on va se battre de notre côté avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire avec la loi française et puis un crayon et du papier.
Face à lui, ce sont toutes les églises et les cultes de France qui se lèvent et qui protestent contre les caricatures. Comme l'archevêque de Lyon, Monseigneur Barbarin.
J'aimerais pas qu'on fasse ça avec le visage de Jésus. Si je vois ça dans une publication à propos de Jésus, je reconnais que ça me blesse. Donc je comprends la blessure des musulmans. Et je trouve que c'est pas respectueux. Et quand les musulmans sont attaqués, je dis, ben non, pourquoi est-ce qu'on respecterait pas aussi leur foi à eux? Une caricature dont on sait que ça va blesser l'intime d'une personne, je trouve qu'on a raison de mettre le haut là et dire, arrêtez de blesser les gens. Les gens ont le droit d'être respectés. Vous avez tout à fait le droit de pas être croyant. Et nous avons tout à fait le droit d'être croyant. Et à l'intérieur d'une république où on a dit qu'il y a une séparation de l'Église et de l'État, on respecte les cultes. Donc on respecte les convictions profondes des gens. Et si quelqu'un est très en colère contre les religieux, il n'est pas obligé de cracher à la figure. Quoi. Nous avons aussi le droit au respect, comme tout le monde.
Le respect des cultes, comme celui du droit à la caricature, s'entrechoque dans les mots et les propos des différents intervenants. Parce que chacun interprète les définitions selon son bon vouloir, son monde, son pouvoir. C'est d'abord le fait religieux, une menace qui ne dort que d'un œil. Mais pour les représentants des différents cultes, c'est l'occasion inattendue de réaffirmer l'importance de la religion dans la société. Aux élus, ensuite, gardiens de la constitution de notre République laïque, de réaffirmer les droits et l'espace de chacun. C'est ce que fait Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et des Cultes, lors d'une intervention à la télé.
Nous sommes une République laïque et démocratique. Lorsque la caricature va au-delà du raisonnable, ce sont les tribunaux qui en jugent, pas les autorités religieuses et pas les gouvernements de pays musulmans. Alors tout ce qui est de l'amalgame est odieux, parce que l'islam ne veut pas dire le terrorisme. Ça n'a même rien à voir. C'est une religion de paix. Mais on ne va pas faire une législation spécifique pour une religion par rapport aux autres. La caricature, c'est par définition l'excès. Eh bien, je préfère cet excès à celui de la censure. Et on ne va pas rétablir la censure parce que l'islam de France est devenu, par le nombre des pratiquants, la deuxième religion de France.
Le lendemain, Dalil Boubacar est reçu à l'Élysée. À la sortie de cet entretien, un communiqué de la présidence est publié. Jacques Chirac rappelle que la France, pays de laïcité, respecte toutes les religions et toutes les croyances, puis il appelle chacun au plus grand esprit de responsabilité. Des mots de président. En tout cas, la responsabilité et l'utilisation du droit d'expression, Charlie Hebdo va les prendre au mot, comme des dizaines d'autres dans le monde entier en ce mois de février 2006. Le 3, dans les locaux de la rue de Turbigot, la conférence de rédaction commence chez Charlie Hebdo. Comme tous les jeudis, la ruche bourdonne. Ils sont tous là. Philippe Val, Gérard Biard, Cabu, Charme, Tignouz, Rice, l'oncle Bernard. Entendez Bernard Maris, Caroline Forest et d'autres. ensemble. Ils décident de publier eux aussi les caricatures danoises en y ajoutant leurs dessins. Qui fera celui qu'on publiera à la une ? C'est Cabu qui s'en charge. Écoutons-le, aux côtés de Philippe Ball et de leur compagnon ce jour-là. C'est un extrait du documentaire de Daniel Lecomte sur l'affaire.
C'est Mahomet, alors là, il regarde les dessins et il dit «
C'est la première fois que les Danois me font rire. »
C'est bien la première fois.
Voilà, et maintenant, il faut dessiner Mahomet. Alors, moi, j'ai pas envie de faire un être grimaçant avec une barbe.
Tu peux mettre un truc.
Être aimé par des cons, c'est... c'est dur d'être aimé par des cons.
Ça, c'est pas vrai, ça.
Mais je pense que ça... ça...
Oh, Marc, ça pète. Hein. Mahomet fatigué des intégristes.
Mahomet sous Prozac.
Oh, Marc, c'est chouette, ça. Ouais. On met Mahomet débordé par les intégristes. Plutôt que par sa base. Mahomet débordé par les intégristes. Mmh. Et là, il dit... C'est dur d'être aimé par des cons.
C'est dur d'être aimé par des cons. Le numéro est prévu pour le 8 février. Alors qu'à Charlie, on rit. Les sirènes et les alertes à la bombe se multiplient ici et là. Le dimanche avant la publication, les locaux de Charlie Hebdo sont évacués, eux aussi. Le 7, la veille de la publication, c'est une assignation qui réveille le journal. Le recteur de la mosquée de Paris espère faire interdire la publication. Il explique sa démarche au journal de 13h de France Inter, une heure avant l'audience.
J'appelle chacun la responsabilité qu'il ne faut pas être provocateur de haine et de passion qui divise notre société. Ça, je ne le souhaite sous aucun cas et je demande qu'il y ait vraiment calme et respect de l'ordre public. Si de pareilles publications doivent amener à l'excitation de passion ou de choses aux conséquences que personne ne peut mesurer, personne ne peut ni dire qu'il y en aura ou pas, je n'en sais rien. Je demande de faire attention, je demande vraiment d'être responsable.
Au palais de justice, il y a foule. De nombreux journalistes ont fait le déplacement. Mais pour rien. Car l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, met en avant une nullité de procédure. À la sortie du tribunal, c'est le soulagement, mais aussi la sensation d'un rendez-vous manqué. Deux jours plus tard, le Conseil français du culte musulman annonce son intention d'engager une action justice contre les journaux ayant reproduit les caricatures du prophète. Charlie Hebdo, lui, est en kiosque. Et dès les premières heures, les 160 000 exemplaires sont vendus. L'imprimerie est relancée deux fois et près de 500 000 numéros au total seront écoulés. Le 11 février, une manifestation à l'appel d'associations musulmanes se tient place de la République.
Et le prophète, c'est le messager de Dieu, il ne faut pas toucher. C'est pas quelqu'un comme moi, comme vous, comme quelqu'un d'autre.
Il y a liberté d'expression et il y a respect. Et en fait, en tant que démocratie et que république, tout le monde se doit de respecter l'islam comme le judaïsme, comme le christianisme, comme l'athéisme.
On a l'impression que c'est une liberté d'expression sélective. Alors que non, oui à la liberté d'expression, mais non à la diffamation, non à la haine.
Je suis Charlie, ou pas, déjà. De gauche à droite, croyant ou non, jeune comme plus âgé, l'affaire des caricatures met en lumière une fracture française. Cette manifestation clôt la première séquence de l'affaire des caricatures en France. Entre-temps, près de 145 journaux dans 58 pays ont publié une partie ou l'intégralité des 12 caricatures de Mahomet. Les semaines passent, le bruit diminue jusqu'à la prochaine bataille, juridique celle-ci. En décembre 2006, deux procédures sont lancées contre Charlie. L'une portée par l'Union des organisations islamiques de France, l'autre par la Grande Mosquée de Paris, toutes deux pour injures publiques à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur religion. Elles visent trois caricatures, deux danoises, celle du turban transformé en bombe et des kamikazes accueillis par le prophète, et la une signée Cabu dans Charlie, où l'on peut lire « C'est dur d'être aimé par des cons ». Le 7 février 2007, Paris, 17e chambre du tribunal de grande instance. La salle des pas perdus est bondée. À côté des musulmans, des associations et de fidèles du journal qui s'écharpent déjà sur l'objet du scandale, des dizaines de journalistes, caméras à la main, attendent l'arrivée des protagonistes. Dans le box des accusés, Philippe Ball. Il est défendu par Richard Malka, avocat du journal, et Georges Kegeman, ancien ministre de la Justice de François Mitterrand. Du côté de la mosquée de Paris, Francis Spinner est en charge de la partie civile. Philippe Val est le premier à être interrogé. On lui présente les dessins. Il les regarde, sourit sans doute, puis se lance dans une sorte de conférence sur le dessin de presse. Que voit-on là, sur ces dessins ? Une attaque contre la religion musulmane ou une critique contre sa frange la plus intégriste qui égratigne chaque jour, par ses actions, l'image de la religion dont il se revendique. Le scandale n'est pas né de la plume du dessinateur, mais simplement du regard de celui ou celle qui voit le dessin et qui l'interprète. Vers midi, premier coup de théâtre. Une lettre inattendue arrive au courrier du matin. Elle traverse tout Paris pour atterrir dans les mains de l'avocat Kiegemann, qui s'empresse d'en faire lecture à l'audience.
Je tiens à apporter clairement mon soutien à votre journal, qui exprime une vieille tradition française, celle de la satire. Je puis tout à fait comprendre que certains dessins incriminés aient pu heurter les convictions religieuses de certains de nos concitoyens musulmans. Pour autant, je préfère l'excès de caricature à l'absence de caricature.
Lettre signée Nicolas Sarkozy. L'ancien ministre est en pleine campagne présidentielle. En stratège et mensevoir où on ne l'attend pas, il ne rate pas l'occasion du procès de Charlie Hebdo pour réaffirmer sa position sur la place de la religion. Et c'est un soutien inattendu pour Charlie, qui pour autant n'épargne pas le turbulent candidat. Et c'est un coup dur pour Dalil Boubaker, président du Conseil français du culte musulman qu'inventa, quelques années plus tôt, le même Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur. Sur les bords du tribunal, les dessinateurs se délectent de la situation et de l'audience. Crayon et gomme à la main, ils croquent chaque moment du procès, comme Tignous, armé d'un épais carnet.
Spinner, il est bien aussi. Il a des petites moues absolument charmantes. Et Spinner, il était marrant parce que quand il était debout, et il n'est pas très grand, il se montait sur ses talons comme ça, il était assez rigolo.
Ça, vous avez pu le dessiner, ça ?
Bah, oui, mais avec des petits traits. C'est moins bien qu'au cinéma.
La journée se poursuit, chaque camp réaffirme sa position sur la place de la religion et la liberté d'expression. L'après-midi, c'est François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui vole au secours du journal. Puis François Bayrou, qui rêve déjà de diriger la France, débarque à son tour. Habitué de l'office du dimanche, il se déclare croyant mais refuse toute atteinte à la liberté d'expression. Le procès devient un moment de la campagne de 2007. À côté des politiques, d'autres personnalités prennent la parole lors de l'audience. On reconnaît là le rédacteur en chef danois, qui vient expliquer le contexte de la première publication, mais aussi le journaliste algérien Mohamed Sifaoui, qui arrive muni de drapeaux et d'illustrations d'organisations musulmanes, où des armes sont liées à des versets religieux. Il y a encore Elisabeth Badinter. Écoutons-la d'ailleurs. À la sortie de l'audience, devant la caméra de Daniel Lecomte, pour son film dont vous connaissez bien le titre maintenant, C'est dur d'être aimé par des cons.
C'est pour moi fondamental parce que j'ai l'impression que la presse qui a osé publier les caricatures et donc exercer notre liberté d'expression a été pour moi comme le dernier rempart de mes libertés. Quand j'avais entendu Philippe Val à la radio dire « il ne faut pas céder », je peux vous dire que ça a été un soulagement pour moi et c'est ma cause que je viens défendre. J'ai laissé, parce que si par hasard le tribunal leur donne raison, nous ne pourrons plus parler, nous allons être terrorisés, nous ne pourrons plus parler, et c'est le silence. Ce silence qui va tomber sur une société démocratique en apparence et qui en fait sera saisie par la terreur.
Vers 18h, après la plaidoirie, la procureure Anne de Fontette refuse de suivre la partie civile et affirme que les éléments constitutifs des poursuites ne sont pas réunis. Fin des débats. On attend le jugement. Le soir même, Philippe Val reçoit de nouvelles menaces de mort. Le 22 mars 2007, la décision judiciaire arrive. Val est relaxé. Mais l'affaire n'est pas close. Le 1er janvier 2010, Kurt Westergaard, auteur de la caricature où Mahomet coiffé d'une bombe, est victime d'une tentative d'assassinat. En novembre 2011, à la suite d'un nouveau numéro intitulé « Charia Hebdo », le siège du journal est détruit par un incendie criminel. À l'AFP, Sharp déclare.
La peur est le meilleur ennemi de l'islam. Il faut peut-être un jour arrêter d'avoir peur de l'islam. Je crois qu'on peut parler de la religion musulmane, qu'on peut parler de toutes les autres religions. Il faut arrêter de traiter les musulmans qui vivent en France comme des extraterrestres. Et à partir du moment où c'est pas pour se moquer de Mahomet ou ridiculiser Mahomet, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le lire comme on lit au catéchisme des histoires de Jésus.
Le 7 janvier 2015, Charb meurt aux côtés de son garde du corps et de 8 autres personnes. C'était il y a 10 ans, jour pour jour.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Les caricatures de Mahomet, dont nous allons parler avec nos invités deux confrères, Serge Faubert, bonjour Serge Faubert, ici présent, et Daniel Lecomte à l'extérieur qui a quelques problèmes de connexion, mais je pense que nous l'aurons dans quelques minutes. Serge Faubert, vous dirigez aujourd'hui la rédaction de Pure Politique, qui décrypte l'actualité politique de l'Assemblée en particulier, donc vous avez pas mal de travail en ce moment. Et vous étiez en 2005 et 2006 le directeur de la rédaction de France Soir, premier journal français donc à publier les caricatures. Alors, le 1er février 2006, une semaine avant que Charlie Hebdo ne le fasse, France Soir, dont vous dirigez la rédaction, donc publie ces caricatures danoises. Comment la décision a-t-elle été prise? J'imagine qu'il y a eu débat au sein de la rédaction.
Il y a eu débat et en même temps, ça s'est imposé comme une évidence. On avait deux conférences de rédaction, comme dans tous les quotidiens. C'était une grosse machine, hein, François, à l'époque, c'est 120 salariés, de belles plumes, de beaux réflexes journalistiques, donc avec un background derrière. Voilà, donc ça fonctionne, c'est une machine très réactive. Donc le matin, on fait notre conférence de rédaction. Le chef du...
Approchez-vous juste un peu du micro.
Voilà, le chef du service des infos gênés nous dit cette affaire des caricatures dont on avait tous un peu entendu parler. Il y a des dépêches d'agence qui disaient au Danemark, etc. Mais bon, le Danemark, c'est loin. Et on n'avait pas vu l'intégralité des caricatures en question. Donc le chef des infos gênés nous dit là, ça remue beaucoup, il y a des manifestations dans les pays arabes, il y a des délégations, il y a des actions diplomatiques, voilà, il faut en parler. Donc on décide de faire un papier factuel sur les caricatures, qu'est-ce que c'est, d'où elles viennent, comme vous l'avez fait à l'instant, hein. Et puis on décide de faire un papier de contexte géopolitique. Et moi, je dis, bah tiens, comme chaque jour je faisais un édito, je dis, bah je vais faire mon édito sur justement la liberté d'expression, le droit au blasphème, et expliquer qu'il ne s'agit pas de stigmatiser des croyants, mais de brocarder une religion, comme on peut brocarder l'ensemble des religions. Rien ne s'y oppose, et le fondement de la laïcité, c'est justement cette distinction entre le croyant, dont on doit protéger la liberté de culte, et puis la religion que l'on peut critiquer, repousser, brocarder, etc., etc. Voilà, c'est l'histoire de la philosophie, c'est l'histoire de la littérature, c'est l'histoire des Lumières. Nous sommes le pays des Lumières, et donc on veut tous réaffirmer cette idée, et donc elle s'impose presque naturellement. Donc on se revoit vers 15h30, c'est la deuxième conférence de rédaction, on fait l'état d'avancement des papiers, et là se pose la question d'illustrer le papier.
Eh oui.
Et là, le chef du service photo nous dit, bah, regardez, j'ai les dessins, voilà, donc on va en choisir un ou deux.
Puis on donc met... du journal danois, on est bien d'accord.
Du journal danois. Mmh. Hein, donc il nous dit, bah, on va en mettre un ou deux, puis on regarde vraiment attentivement les caricatures, et on considère, là, la vie à peu près générale, qu'elles sont quand même pas terribles, elles sont même plutôt médiocres pour certaines. Mais nous, c'est une question de principe, c'est pas ces caricatures plutôt que celles-là. Donc on se dit, on va pas en choisir, parce qu'en choisir, ce serait dire finalement, alors celle-ci est admissible et celle-là non.
Ouais.
C'est soit on les publie toutes, soit on n'en publie pas. Et on prend la décision de toutes les publier. Donc on débloque deux pages, c'est pas simple, mais on arrive à trouver deux pages dans le journal de plus. Et puis, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui est poursuivi là? C'est la caricature, c'est-à-dire l'outrance, le fait de brocarder une confession. Donc on décide de faire la une là-dessus. Donc on a à l'époque des dessinateurs qui font très bien leur boulot et qui font la une que vous avez rappelée, c'est-à-dire Mahomet, on a tous été caricaturés, etc. Et voilà, voilà comment on parle d'histoire. C'est-à-dire que le soir, il y a pas. Alors on nous a accusés d'avoir monté, d'avoir réfléchi à un coup commercial, etc. La meilleure preuve que c'est pas vrai, c'est qu'on n'avait même pas prévu un tirage supplémentaire du journal pour cette histoire de caricature. Donc, le soir, le journal part, et voilà.
Est-ce qu'il y a eu, ensuite, la part de vos confrères ou des politiques, après ce 1er février, un soutien ou, au contraire, des protestations ?
Non, on s'est retrouvés assez seuls. À notre grande surprise, d'ailleurs. Je dois dire que, sur cette question de principe, on s'attendait à un soutien large. Et dès le lendemain, un certain nombre de voix politiques se sont élevées. Je me souviens, je crois que c'était Hubert Védrine qui nous accusait d'irresponsabilité, de jeter de l'huile sur le feu dans une situation diplomatique sensible. Et tout le monde y est allé de son couplet sur ce journal qui, finalement, risquait d'attiser un conflit qu'il valait mieux mettre sous le tapis. Hein. C'était ça qu'on nous suggérait. Et de la part des confrères... Il y a eu des réactions mitigées. Certains disaient oui, on aurait mis celle-là, mais pas celle-ci. Enfin, on se pinçait un peu le nez, quoi. Hein. Ouais. Et alors j'étais quand même très déçu, je dois le dire. Et là où, franchement, il faut lui rendre hommage, vous l'avez rappelé, mais le seul qui nous a vraiment soutenu, c'est Nicolas Sarkozy.
Oui, on a entendu son discours. Et
j'en revenais pas. Je dois le dire. J'en revenais pas, mais sur ce coup-là, il était
très pertinent. Très pertinent.
Il était exemplaire.
Très bien, alors on va revenir à vous, Serge Faubert, évidemment. Je crois que Daniel Lecomte a retrouvé la connexion. Vous m'entendez, Daniel ?
Oui, oui, très bien.
Bonjour. Alors, vous avez longtemps travaillé pour la chaîne Arte, et parmi vos nombreux films, vous avez réalisé en 2015 L'humour à mort, en hommage aux victimes de Charlie Hebdo, et pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, vous avez réalisé en 2007 le documentaire C'est dur d'être aimé par des cons, documentaire consacré au procès des caricatures. Je crois que vous avez témoigné lors de ce procès, c'est ça ?
Oui, d'abord, je voudrais dire que je suis ravi d'être en compagnie de Serge Faubert, parce que bon, c'était le grand absent dans la façon dont on a présenté les
Exactement.
Événements à cette époque. Mmh. Et en fin de compte, il a joué un rôle décisif à mes yeux.
Merci beaucoup.
Voilà. Et je dis, on n'a pas suffisamment cité François et son action à lui. Et je voulais dire aussi que il y a un autre journaliste qui a été remarquable dans cette période, c'est Denis Jambard. Avec à l'Express, qui est intervenu lui-même avec sur le même sujet et qui a mis dans la balance sa place de directeur de publication de l'Express et qui a fini par partir de l'Express à cause de ça parce qu'il avait outrepassé les consignes qu'avait donné son patron Dassault et donc qui a aussi été un de ces rares chefs de presse qui a été courageux, avec bien sûr derrière Charlie Hebdo qui s'est retrouvé un peu seul avec ces deux journalistes-là et ces deux journaux.
Et la déclaration de Nicolas Sarkozy, c'est important parce qu'il avait le vent en poupe à l'époque. Hein. D'ailleurs, il était élu président quelques mois après. Comment avez-vous reçu sa déclaration ? C'était vraiment un soutien à la liberté d'expression.
Hein. Effectivement, c'était stupéfiant. Et en même temps, c'était un des piliers, des trois piliers du point de vue politique de ce procès. Parce qu'il y avait Bayrou, qui était là, qui était candidat au présidentiel. Il y avait Hollande. Donc le prince consort qu'on disait à l'époque, et puis Sarkozy. C'était l'arc républicain.
Ouais.
Et donc cet arc le républicain témoignait de sa présence et était un peu les parrains de Charlie dans cette affaire. Et donc c'était un moment extrêmement important quand ce fax est arrivé.
France Inter. Affaires sensibles.
Daniel Lecomte, vous êtes toujours là ?
Oui, bien sûr.
Parfait. Vous réalisez donc en 2007, pendant le procès des caricatures, votre documentaire intitulé « C'est dur d'être aimé par des cons ». Pourquoi décidez-vous de concentrer votre film sur ces journées d'audience ? Quel était l'enjeu ?
Enfin, c'était un enjeu important, décisif même. L'enjeu du procès, c'était de gagner. Et de gagner à tout prix. Si on ne gagnait pas, les islamistes gagnaient 10 ans. on va dire comme ça, pour une date, mais 10 ans, pour concrétiser leur projet de conquête des territoires perdus de la République. Si on gagnait, c'était au contraire nous, Charlie, et tous ceux qui en France se battent pour défendre ses acquis, notre culture et nos institutions, qui gagnaient 10 ans au moins. Nous avons gagné, et de la plus belle des manières. Le tribunal a donné raison à Charlie sur 2 points clés. Charlie, et c'est le jugement qui a écrit ça, a eu raison de publier les caricatures de Mahomet. Et le tribunal a précisé dans ses conclusions, en plus, que Charlie a participé d'un débat d'intérêt général. Autrement dit, son jugement, pris au nom du peuple français, faisait loi. Alors, ce procès à Charlie a changé la donne de façon importante et de 2 manières. Par cette décision de justice, d'abord, et puis ensuite, par l'immense adhésion du peuple français à cette histoire. N'oubliez pas que ça a été suivi après les événements du 7 janvier par le 11 janvier 2015. Donc, avec 4 millions de Français dans les rues, la plus grande manifestation de tous les temps. Et donc, ça a été un moment de grâce, même qui a été entrecoupé de l'incendie de Charlie et d'un certain nombre d'intellectuels qui sont très mal comportés dans toute cette période de transition entre les 2 événements. Mais ça a été quand même, au fond, cet incroyable torrent humain dans les rues de France le 7 janvier 2015 prouve qu'il y avait une avancée formidable qui avait été faite par Charlie dans cette affaire. Donc pour moi, c'était, quand je dis c'était de gagner, ça avait été gagné, même si c'était au prix de la mort de nos amis les plus chers. Donc, mais ça avait gagné. Et puis, dans les mois qui ont suivi, il s'est trouvé des compagnons de route des islamistes qui ont relevé la tête très vite. C'est ça aussi les phénomènes qui se passent souvent quand il y a des émotions autour des attentats. Alors je cite en vrac, hein, Plenel d'abord, directeur du Monde, à l'époque ou peu avant, et de Mediapart qui a dénaturé cette décision en accusant Charlie d'islamophobie, très vite, semaine, 15 jours après, le 11 janvier. Emmanuel Todd qui a parlé de catholiques zombies pour nommer les manifestants du 11 janvier, quel mépris! Et puis les Inrocks qui ont refusé de publier les caricatures de Mahomet, et puis Virginie Despentes hein, qui, en parlant des frères Kouachi, dit « Je les ai aimés par leur maladresse quand je les ai vus les armes à la main, semer la terreur en hurlant « On a vengé le prophète ». Se souvient-on de cette infamie ?» Je dis « Comment s'est donné si 6 mois après le 11 janvier, il y a eu la tuerie de masse du Bataclan et celle de Nice ?» Et là, c'est quelque chose qu'il faut interroger, c'est-à-dire la responsabilité d'un certain nombre de clercs aujourd'hui dans la République.
Et pas seulement, vous avez parlé récemment d'un discours de raison chez certains journalistes, une forme de déni de la réalité.
Ben ça, si vous voulez, c'est ce que j'ai vécu à titre personnel depuis très longtemps. C'est affligeant de voir, si vous voulez, à quel point ces informations concernant et les attentats et le reste sont maltraitées. Enfin, c'est terrifiant. C'est souvent avec des diversions du type où on va chercher vers des cas psychiatriques pour faire diversion, et puis de reprendre ces informations-là en prenant soi-disant des précautions, mais on sait très bien tous de quoi il s'agit dans les caractéristiques qui sont données dans les premiers instants. Enfin, tout ça participait de la même dilution du problème. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, il y a même une situation pire qu'avant, le 15 janvier 2015, par certains côtés. Parce qu'à côté de la force brutale des islamistes, il y a maintenant une expression politique de cette sensibilité, avec LFI, qui assume ouvertement de viser cet électorat en rupture brutale avec la France. Donc d'une certaine manière, c'est une façon de pénétrer les institutions de la République et de donner une vitrine légale à des discours tenus par des terroristes. En tout cas, des gens qui refusent de reconnaître, par exemple, le caractère terroriste du 7 octobre 2023. Ouais. Alors voilà, donc je pense que, si vous voulez, tout ça, il faut l'acter aujourd'hui. si on veut renverser la vapeur et essayer de combattre ce mal. Moi, si vous voulez, alors j'ai des exemples à titre personnel de la façon dont...
On va donner la parole à Serge Faubert. Merci infiniment. Serge Faubert, sur tout ce que Daniel Lecomte vient de dire, des mots importants.
Je crois qu'il a raison, parce qu'il y a une bataille idéologique et il y a un recul. Je vais prendre un exemple. Ce concept d'islamophobie qui amalgame à la fois la critique de la religion et la stigmatisation des croyants. C'est-à-dire que c'est la négation de la liberté d'expression. On peut dire tout ce qu'on veut sur superstition, amis imaginaires, sur les religions. Il faut respecter les croyants, mais pas forcément leurs croyances. Eh bien, cette distinction fondamentale de la République française est complètement occultée par ce concept. Et aujourd'hui, c'est passé dans le langage courant. Jean-Luc Mélenchon, en 2015, disait « je suis islamophobe ». Sous-entendu, je m'en prends à une croyance. Aujourd'hui, il emploie lui-même ce terme. Et c'est là qu'on voit le recul de la laïcité et le recul des valeurs de la République.
Très rapidement, Daniel Lecomte, la presse, évidemment, a un rôle important à jouer. Il n'y a pas que les politiques, il n'y a pas que les responsables des cultes. Le rôle que nous avons à jouer, fondamentalement, pour vous, il est où ?
De nommer le mal.
Nommer le mal.
Voilà, ça, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire, le temps qu'on a mis en France pour nommer le mal, c'est absolument effrayant. C'est-à-dire que notre métier à nous, l'honneur de notre métier, c'est d'anticiper sur l'information. Les gens attendent de nous ça. Ils n'attendent pas simplement qu'on leur répète des dépêches d'agence. Ils attendent de nous qu'on fasse une analyse de la situation et qu'on prenne des risques, y compris celui de se tromper. Donc je pense que ça, nommer le mal, ne pas avoir peur de le faire, ou regarder aujourd'hui les proportions que ça prend, quoi, comme d'avoir laissé, par exemple, une dérive mémorielle en France. On est aujourd'hui rattrapé par des influenceurs venus d'ailleurs, si vous voulez, qui sont en train de déstabiliser ce pays. Il faut être capable. Il faut être capable. D'accord. Et avoir le courage de le faire.
Nommer le mal, on va retenir cette leçon. Nommer le mal,
est-ce
que c'est fini, là, vous partagez.
Je partage.
Pardon, Daniel Lecomte, il est 15h59 et 20 secondes, et c'est vraiment la fin de l'émission. Merci infiniment, Daniel Lecomte. Merci également, Serge Faubert. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les caricatures de Mahomet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet. Thank you.